Radio Évangélique. Un regard sur les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Voici Daniel Poulain.
Bonjour, chers auditeurs, ici Daniel Poulain qui vous accueille pour la prochaine demi-heure à l'émission Radio Évangélique. C'est avec joie que je me retrouve encore avec vous pour vous partager la merveilleuse parole de Dieu. Nous avons toutes sortes de sujets intéressants à regarder et aujourd'hui c'est un sujet spécial pour une journée spéciale, c'est-à-dire la fête de Noël. Pour nous aider à comprendre le but de la fête de Noël, il faut regarder quand même dans les Saintes Écritures pour regarder pour quelle raison que nous fêtons Noël aujourd'hui. Puis, si on considère qu'aujourd'hui que la fête de Noël est fêtée à travers le monde entier, souvent, on perd de vue la vraie raison pourquoi qu'on la fête, puis ça a été modifié à travers les temps, puis en incluant le Père Noël, faire des cadeaux, etc. Mais le but réel pour lequel ça avait été mis en place, cette fête, c'était dans le but de souligner la naissance de Yeshua. Yeshua, c'est Jésus, la naissance de Jésus. On va prendre conscience aujourd'hui du plus grand cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. Dieu veut nous révéler son amour, il veut nous révéler son cadeau. Parce qu'à la fête de Noël, tout le monde s'échange des cadeaux, puis ça nous rappelle comment ce que Dieu, lui, nous a donné le plus grand cadeau pour l'humanité. Puis pour comprendre pourquoi que les hommes avaient besoin du cadeau de Dieu, mais il faut comprendre notre situation devant Dieu. Ça a commencé avec les deux premiers humains, Adam et Ève. Voilà 6000 ans, presque 6000 ans d'histoire quand Adam et Ève ont été créés, qui étaient dans le jardin d'Éden. Ils marchaient avec Dieu, ils étaient en communion avec Dieu, puis là, la Bible nous dit qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont écouté le diable, puis ça a entraîné un paquet de jugements sur Adam et Ève et sur l'ensemble de l'humanité, comme par exemple d'être maudit, d'être chassé du paradis terrestre et en plus d'être privé de manger de l'arbre qui nous assurait de vivre éternellement. Mais ils ont aussi subi l'effet d'être morts spirituellement, séparés d'avec Dieu. À partir de ce moment-là, la journée qu'ils en ont mangé, ils ont été séparés d'avec Dieu, puis l'ensemble de l'humanité vient au monde dans la même nature qu'Adam et Ève. Séparés de Dieu, privés de toutes les bénédictions de Dieu, morts spirituellement, puis en direction de la mort physique. Puis dans Romains 5, les versets 12, ça nous dit c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, puis par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Puis on peut le constater, l'ensemble de l'humanité marche dans les traces d'Adam et Ève, dans désobéissance, dans une vie qui est complètement contraire à la volonté de Dieu, séparée d'avec Dieu, etc. L'état de l'humanité, mais il faut dire qu'on est tous des pécheurs, puis on est tous privés de la gloire de Dieu. On fait face à une situation d'urgence, puis il est important que Dieu intervienne pour nous aider dans notre situation, parce que la Bible elle dit que pour l'homme, c'est impossible d'être sauvé. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Le seul qui peut sauver l'humanité, c'était Dieu lui-même. C'est pour ça que tout de suite, lorsqu'Adam et Ève ont tombé dans le péché, la Bible nous dit que Dieu a fait une promesse de l'envoi d'un sauveur. Dans la postérité de la femme, Dieu a promis qu'il viendrait quelqu'un au monde de la postérité de la femme qui viendrait pour écraser la tête du serpent, puis qui viendrait pour détruire les œuvres du serpent, c'est-à-dire le diable, pour nous assurer à nous qui sommes les survivants, des descendants directs d'Adam et Ève, mais pour nous assurer d'avoir le pardon de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Dieu il a déjà mis à travers la bouche de ses prophètes, ça nous a été écrit, on a ça par écrit, toutes ces révélations, ces enseignements sont dans le but de nous révéler qui était ce personnage qui viendrait pour écraser la tête du serpent. Dans Genèse 3:15, c'est là que ça a commencé, quand Dieu l'a annoncé à Adam et Ève. Il a dit, je mettrai un inimitié entre toi et la femme, puis il est en train de parler au diable, puis entre ta postérité puis sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête puis tu lui blesseras le talon. » On voit dans ce passage-là que Dieu a promis au diable qu'il serait écrasé, puis qu'il viendrait quelqu'un de la postérité de la femme qui écraserait le serpent. Puis on voit toutes sortes de passages par la suite où ce que Dieu a renouvelé sa promesse, puis il nous a dit un peu plus précis, d'une manière un peu plus précise par la suite dans l'histoire humaine. À plusieurs reprises, les prophéties de Dieu se sont multipliées au sujet de ce sauveur. Puis là, ça nous annonçait, comme dans Isaïe 7,14, qui était pour nous venir, que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le message prophétique nous a amené à comprendre que le Messie viendrait d'une fille, d'une jeune fille, vierge, qu'elle tombera enceinte, puis qu'elle enfantera un fils, qu'on lui donnera le nom de Dieu avec nous, mais Emmanuel. Puis dans Isaïe au chapitre 9,5, ça nous parle encore de la naissance d'un fils. Ça nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, puis la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Wow! Ce verset-là est encore plus spécifique pour nous dire que le fils qui nous sera donné, le descendant attendu, c'était prophétique. Il s'était annoncé par Dieu lui-même, par les prophètes. On était pour l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On était pour appeler ce fils-là Père éternel. Puis une autre promesse qui nous était faite dans Michée au chapitre 5, les versets 2, ça nous parle de l'endroit même où ce que devait naître le Messie. Ça nous dit, « Toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Wow! Dans ce verset-là, c'est encore plus spécifique que celui qui viendra au monde naîtra à Bethléem, puis son origine serait au jour de l'éternité. Fait qu'on voit que ce messager-là, qui était pour venir à travers la descendance de la femme, il était pour venir de Bethléem, puis son origine, il vient du ciel, puis il serait appelé conseiller, Dieu puissant, Père éternel, puis il sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Les prophéties nous ont parlé d'une manière très précise à propos d'un Messie qui serait Dieu lui-même. Un autre super beau passage dans l'Ancien Testament nous parle encore dans Isaïe, pour nous donner avec précision que ce quelqu'un-là qui viendrait, il serait pour prendre sur lui les péchés, puis notre châtiment. On voit ça dans Isaïe chapitre 53, les versets 2 à 6. Ça nous parle de quelqu'un qui porte sur lui nos souffrances et nos péchés. Ça sera le Messie attendu qui viendrait pour prendre sur lui nos souffrances et nos péchés. Puis je vais vous le lire. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, puis l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce passage des Saintes Écritures est encore plus spécifique de la venue de ce Messie, de ce Sauveur, où ce qui naîtrait à Bethléem, qui viendrait du ciel, puis qui serait appelé le Dieu puissant, le Père éternel, mais qui viendrait sans que les gens porte une attention sur lui, il serait rejeté, c'est un homme de souffrance, puis il souffrait, puis il était chargé de douleur, puis on pensait qu'il était frappé de Dieu parce qu'il était dans le péché, mais en réalité, il portait les péchés de l'humanité sur ses épaules. Il portait sur lui, sur ses épaules, le péché de l'humanité, puis le châtiment qui nous donne la paix a tombé sur lui. Ce Messie-là devait se charger de l'iniquité de nous tous et de les expier. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Luc Gingras, Minuit chrétien, puis nous revenons tout de suite après la pause.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père. Arrêtez le courroux, le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Nous lui dirons notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il n'est que souffre et meurt.
De Montréal, vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 AM. Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain.
Nous avons vu juste avant la pause où ce que Dieu avait annoncé d'avance la venue d'un sauveur, d'un Messie. Il l'a annoncé tout de suite au début à Adam et Ève, puis dans la suite à travers des prophètes comme Isaïe ou Michée, puis il y en a d'autres passages même dans les psaumes, à travers la bouche de David, etc. Dieu a parlé à plusieurs passages dans l'Ancien Testament pour nous annoncer qu'il viendrait un sauveur, quelqu'un qui viendrait du ciel, puis qu'il serait appelé Dieu lui-même, puis qu'il serait appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Puis ce sauveur-là porterait sur lui nos iniquités et notre châtiment que nous devions mériter. Pour regarder un peu comment c'est arrivé, cette histoire-là, on va aller lire un passage dans Luc, puis comment est-ce que on voit comment est-ce qu'est arrivée la naissance miraculeuse de Jésus. Mais au sixième mois de la grossesse de Élisabeth, parce que l'Élisabeth est une parente de Marie, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, puis voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, puis il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, puis la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans ce passage-là, on voit encore comment est-ce que Dieu est intervenu dans le but que le Messie vienne au monde. On voit que, comme ça avait été annoncé par le serpent, que la descendance viendrait de la femme, puis qui écraserait la tête du serpent. On voit dans ce passage-là la réalisation de cette prophétie-là. On voit dans ce passage-là comment est-ce que Dieu a permis que la femme devienne enceinte sans l'intervention d'un homme. Dans ce passage-là, ça nous dit qu'elle était pour devenir enceinte, qu'elle enfanterait un fils, c'est ce que l'ange lui a annoncé d'avance, puis elle a dit, « Comment que ça peut arriver que je devienne enceinte? Je connais pas d'homme. Elle n'était pas encore mariée. » Puis là, l'ange lui a répondu que c'était le Saint-Esprit qui était pour la couvrir de son ombre et de sa puissance, puis que l'enfant qui naîtrait de Marie sera appelé le fils, non pas de Joseph, mais le fils de Dieu. C'est pour ça que les passages dans l'Ancien Testament disaient qu'il serait appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, ou des passages que le Saint-Enfant dans Isaïe 9:5 serait appelé Dieu éternel, le Dieu Tout-Puissant, puis le Père éternel, parce qu'il vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a touché Marie pour que Marie tombe enceinte, puis qu'elle mette au monde cet être-là, cet être divin, qui était annoncé d'avance dans plusieurs passages, puis qui était pour venir pour une mission spéciale. Il y avait deux missions que la Bible nous dit pour lesquelles Jésus devait venir. Puis dans ces passages-là, on voit vraiment comment est-ce que Dieu a été fidèle à sa parole. De premièrement, qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il naîtrait à Bethléem. Si vous allez lire les autres passages, vous allez voir que Jésus est venu au monde à Bethléem. Tout s'est accompli comme c'était annoncé d'avance, puis que c'était la venue de Dieu lui-même sur cette terre. C'est ce que les apôtres ont ramené comme passage, comme l'apôtre Jean nous enseigne dans Jean 1, les versets de 1 à 5, en nous parlant de Jésus qui est la parole, qui nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis ça nous parle que Jésus est la lumière des hommes. Il est venu du ciel comme ça avait été annoncé. Puis il s'est fait chair. C'était le créateur de toutes choses qui a été fait chair. Ça, on voit ça dans Jean 1, le verset 14, que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Puis les gens ont contemplé sa gloire lorsque Jésus a fait ses miracles, etc. Il est venu pour manifester l'amour de Dieu. Il est venu pour nous montrer comment est-ce que Dieu nous aimait, comment est-ce que Dieu avait payé le prix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Comment est-ce qu'il l'a prouvé ça? Mais il a porté sur lui nos péchés. sur le bois. C'est ce que la Bible nous enseigne, puis c'est ce qu'il devait faire pour porter sur lui les péchés de l'humanité, comme qu'on a lu tantôt dans Isaïe au chapitre 53. Il a pris nos souffrances, nos maladies, il a pris notre châtiment, il a pris nos péchés, nos iniquités, il les a portés sur lui, puis il a versé son sang. Il a expié la dette de nos péchés. Mais non seulement cela, mais Jésus est venu aussi pour écraser la tête du serpent. Comme ça nous le dit aussi dans d'autres passages, qu'en mourant pour expier nos péchés puis prendre notre châtiment, Jésus a aussi écrasé la tête du diable puis de la puissance de ses démons. Dans Hébreux 2, 14, ça dit, « De même que nous, on participe au sang et à la chair, mais Jésus y a également participé lui-même afin que par la mort, sa mort que Jésus a subie, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, en mourant sur la croix, il n'a pas juste porté nos péchés, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'était le diable qui menait le monde puis qui entraînait le monde dans le péché et dans la mort. Mais Jésus, en mourant sur la croix, il a payé le prix, il a payé la dette de nos péchés, puis en même temps, il a écrasé la tête du serpent, comme ça avait été annoncé au début de la création. Il a écrasé le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable et ses démons, comme qu'on peut le voir aussi dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé, il a désarmé les dominations et les autorités, il les a livrant publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Comprenez-vous maintenant c'est quoi qui est le cadeau de Dieu pour l'humanité? Comme le dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a un cadeau pour toi. Il veut te donner la vie éternelle. Mais il t'a déjà donné le premier cadeau, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ, dans le but qu'il meure pour payer la dette de tes péchés. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? L'as-tu accepté comme ton Seigneur? Mais je vais te donner l'occasion présentement de recevoir ce cadeau-là, d'être pardonné de tes péchés, en mettant ta foi, en déclarant de ta bouche que tu crois au Messie, que tu crois au Seigneur. Fais cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie, et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a pardonné. Maintenant, tu es sauvé. Va dans une église évangélique pour t'accrocher au Seigneur, pour persévérer dans la foi. Va sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis ils vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de Stéphane Kiri en cette nuit de Noël. Ici Daniel Poulain qui vous dit que Dieu vous bénisse. Sauveur est venu.
Apprendre davantage sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ, poser une question ou faire un commentaire, visitez le site internet publicationévangélique.com.